Bonjour Corinne Dreyfus, vous êtes auteur, n'est-ce pas ?
Autrice.
Je l'ai fait exprès.
Autrice-illustratrice.
Autrice-illustratrice, très bien. Expliquez-moi dès le départ, comment vous avez été retrouvée dans cette situation ?
Alors, c'est une longue histoire. J'ai commencé par faire les Beaux-Arts. Donc j'avais 18 ans à peu près, j'ai fait les Beaux-Arts à Grenoble à l'époque, mais je pensais pas du tout être illustratrice, je voulais être peintre. Donc j'ai fait une section art, j'aurais bien aimé être Matisse, mais c'était déjà pris. Et en fait je suis sortie des Beaux-Arts, j'ai fait de la peinture pendant quelques années, et puis finalement j'étais contente ni de mon travail, je me sentais pas très à l'aise dans l'environnement des galeries, dans tout ce milieu. Et puis j'ai abandonné et je suis partie en voyage. Et c'est bien plus tard, à l'occasion d'une naissance, que je me suis dit, ben tiens, je sais dessiner, je vais dessiner un livre. Et que je me suis intéressée à la littérature jeunesse, que je connaissais pas du tout, du tout. J'avais pas d'enfant. Et moi, personnellement, à part des Martines, j'ai vraiment rien eu d'autre. Et donc, j'ai commencé à regarder ce qui se faisait. C'était en 1997, je pense, 97-98. Et à ce moment-là, j'ai découvert tous les livres d'Olivier Douzou, entre autres. Et je me suis dit, waouh, on peut faire ça. Et j'ai fait quelques projets, dont un projet que j'ai fait pour une naissance, donc en guise de cadeau. Et quand j'ai eu fait ce projet, je me suis dit, mais c'est trop bien, ça m'intéresse beaucoup. Ça rassemblait pour moi plusieurs choses. D'abord, ça me permettait de dessiner. Ensuite, ça me permettait d'écrire ce qui était, je pense, un vrai désir, mais que je n'osais pas du tout formuler. Parce que l'écriture, ça me semblait tellement hors de portée que j'osais même pas me le dire. Et en même temps, j'avais un grand intérêt. Je faisais déjà à l'époque des ateliers d'art plastique avec des enfants. Donc j'avais un grand intérêt pour travailler avec des enfants. Et du coup, en faisant des livres pour enfants écrits et illustrés, je réunis un peu ces trois axes qui pour moi sont hyper importants.
D'accord. Je vois qu'on est allé très très vite, parce que moi je voulais partir sur quelque chose de chronologique. Donc, une vocation plutôt tardive sur l'illustration. Par contre, une vocation assez assurée dès le départ. Vous êtes parti sur une école d'art, j'imagine, pas par hasard. Expliquez-moi un petit peu les fondements de ça. Est-ce que vous avez une petite idée familiale, d'environnement, d'influence? Qu'est-ce qui fait que vous êtes allé un jour, vous êtes retrouvé aux Beaux-Arts? Parce que vous avez commencé à Grenoble ou vous avez commencé sur Marseille? Parce que là, on est...
Alors, moi, j'ai passé toute mon enfance à Mulhouse. Voilà. J'étais pas tellement dans un milieu artistique, cependant ma maman dessinait pour son loisir, je dirais. Mais par contre, tous mes copains qui étaient un peu plus âgés que moi étaient tous aux Beaux-Arts. Et ça avait l'air trop bien, ce truc où on faisait la fête tout le temps. Donc je crois que c'était aussi une motivation. Après, ouais, un vrai intérêt pour la peinture, pour les expositions. Voilà, il n'y avait pas le côté festif qui m'intéressait.
Je devine peut-être un environnement familial plutôt porté sur la littérature, sur l'intellect, sur le... on n'a pas tout le monde, n'a pas une maman qui dessine.
Ouais, alors pas tant que ça quand même. Il y avait des livres à la maison, mais pas tant que ça. Après, oui, quand même un intérêt autour du dessin, des choses comme ça, mais je dirais pas, par exemple, on n'allait pas au théâtre, on allait un peu au cinéma. Voilà, je dirais une classe moyenne. Un peu normal, quoi. Mais oui, avec une maman qui dessinait quand même.
D'accord. Vous vous retrouvez à l'école des Beaux-Arts, donc pas avec un préalable, parce que je vous dis ça parce que j'ai l'impression, pour fréquenter un peu des gens qui sont ici dans les Beaux-Arts, ici au Nice, enfin voilà, j'ai l'impression d'un lieu initiatique un peu. J'ai l'impression que c'est un lieu qui a ses codes, qui a ses repères. Certes, on s'y amuse, mais c'est aussi un discours, un langage, une initiation. Mmh. Est-ce que vous avez eu l'impression que ça a été très facile pour vous d'intégrer ça ou Madame Normale?
Alors, ça a été facile et pas facile. Ça a été facile dans le sens où voilà, il y avait une vraie... Enfin, ça fusait de toutes parts, tout était nouveau, tout était à apprendre. À l'époque, il y avait aussi... ça s'est perdu après, je crois, mais il y avait une grande liberté. Voilà, moi, quand j'étais aux Beaux-Arts, on avait des cours de dessin qui n'étaient pas obligatoires, donc on n'était pas obligé de faire de la perspective, on n'était pas obligé... on avait une grande liberté, en fait, d'expérimenter... sans passer par un cursus très classique, ce qui, après, de ce que j'ai vu des Beaux-Arts après, a un peu changé parce qu'il y a eu plus d'examens, de contrôles, etc. Donc ça, c'était chouette, c'était très, très motivant, c'était beaucoup de possibles qui s'ouvraient. Et en même temps, en fait, moi, j'ai jamais été très à l'aise dans un parcours scolaire, en fait. Ça a toujours été compliqué. Donc, je me suis toujours mis, je pense, toute seule, beaucoup de pression. Donc, il y avait aussi ce côté qui était... D'ailleurs, pour tout vous dire, j'ai pas fini les Beaux-Arts. J'ai pas eu mon diplôme. Je suis partie avant.
Ça, il y a plein de gens. Hein,
ouais, bah, de toute façon, ça sert à rien, les diplômes, c'est parce qu'on attend, on les sort pas. Mais voilà, mais quand même une grande, voilà, une découverte. En plus, moi, j'ai choisi de partir à Grenoble. Enfin, en vrai, à la fin de mon lycée, comme j'ai décidé assez tard de m'inscrire aux Beaux-Arts, j'avais le choix entre Nîmes et Grenoble.
Pas chez vous, en tout cas.
Ouais. Pas chez moi. J'ai passé les deux concours, j'ai eu les deux, et je me suis dit qu'à Nîmes, il faisait vraiment trop chaud.
Ah oui, tiens.
Donc, j'ai choisi d'aller à Grenoble. Donc, j'avais tout juste 18 ans. Je ne suis pas sûre que j'avais tout à fait 18 ans. Donc, c'était une nouvelle ville, toute seule, un nouvel environnement. Donc, c'était assez, assez excitant et puis un petit peu effrayant aussi.
Ouais, parce que la base, ce que l'on recherche et ce que l'on craint un peu, oui. Vous m'avez dit que bon, vous aviez aimé cette liberté, que ça s'est un petit peu perdu. Est-ce que c'est un peu l'influence des arts appliqués, des choses comme ça, ou c'est simplement le cursus académique qui est venu mettre des mots et des méthodes?
Ouais, je crois qu'on a mis des cadres plus après. Qui sont venus un peu encadrer. Je ne crois pas que ce soit les arts appliqués. D'ailleurs, c'est très drôle parce que à l'époque où j'ai fait les Beaux-Arts, mes professeurs me disaient « Ah, mais tu devrais faire du dessin textile, de l'illustration, tu as un trait pour ça. » Et ça ne m'intéressait pas du tout. Je me disais « Qu'est-ce qu'il me dit ? Ça ne m'intéresse pas. » Et après, j'ai fait du dessin textile et de l'illustration. Donc, je me dis, ils n'étaient pas si bêtes que ça. Mais à l'époque, c'était vraiment pas ce qui m'intéressait, quoi.
Donc, quand vous êtes sorti de votre formation, où on vous a certes pas forcé à faire de la perspective et des choses comme ça, mais on vous a quand même donné des bases techniques, j'imagine bien, et aussi probablement aussi ce bagage intellectuel et qui vous a permis de... que vous évoluez aussi à partir de là. Vous me dites, j'aurais voulu être Matisse, mais bon, la place était prise. Comment vous décririez votre art à ce moment, quand vous sortez de l'école, votre ambition, et puisque vous commencez à produire, en fait?
Ouh, compliqué. D'abord, c'est loin. Déjà, je pense que c'était un art... de jeune femme qui sort de l'école, donc pas très abouti. Il y avait quand même quelque chose de... J'ai beaucoup dessiné sur des très grands formats. Le papier était très présent dans mon travail, c'est-à-dire je passais pas du tout par la toile, par exemple. C'est pas quelque chose que j'aimais. J'aimais aussi beaucoup, et d'ailleurs j'aime toujours utiliser des matériaux très lambda, des crayons, des feutres, de la gouache, enfin pas du tout des matériaux précieux. J'ai pas mal aussi travaillé avec de la poudre de graphite, des stylos Bic, des choses comme ça. J'aime bien utiliser vraiment des matériaux du quotidien. Voilà, et puis après, je me suis installée d'abord dans un atelier avec d'autres artistes dans une usine désaffectée pendant quelques temps. Et puis j'ai travaillé là-dessus après
Dans la
tout.
région de Grenoble,
Non,
pardon.
à Mulhouse.
À Mulhouse,
Ouais, à
revenu,
Mulhouse,
d'accord.
ouais. Après toute la difficulté de présenter son travail, de trouver les ouvertures pour le présenter. Je parle même pas d'en vivre, parce que là on est très 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 loin. Mais je me sentais, j'avais vraiment une sensation de pas être à ma place, en fait, de pas parler ou de pas comprendre le langage des gens que je croisais dans les galeries. Enfin, autant j'aimais l'art, autant j'aimais voir les choses, autant je me sentais pas à l'aise là.
C'est ce que je voulais un peu développer parce que vous l'avez esquissé tout à l'heure. Vous avez dit, voilà, je ne me sentais pas à l'aise dans le milieu des galeries. Parce que je trouve que cette émission, c'est aussi un moment où voilà, on bénéficie de votre expérience, de votre savoir, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui ne vous connaissent pas, mais qui ne connaissent pas non plus votre métier, d'autres qui ont très envie, très attirés par ça. Je trouve que c'est intéressant d'avoir voilà, ces choses qu'on ne raconte pas finalement. Pourquoi est-ce qu'on a bifurqué dans un sens, dans un autre? Alors, je vois deux choses. D'abord, vous avez travaillé sur des grands formats. Donc, c'est des toiles qui faisaient, enfin, ou des œuvres qui étaient sur 2 mètres, 1 mètre, 1,50
Ouais, quelque
hein.
chose comme ça.
Donc, aujourd'hui, si vous travaillez sur de l'illustration en tant qu'autrice, bah, vous travaillez plus sur les mêmes formats. Donc, on va y venir. Et puis, j'avais aussi envie de vous poser une question. Est-ce qu'à cette époque-là, est-ce que vous étiez plutôt dans la figuration de votre art ou vous étiez sur des formes plus abstraites? Est-ce que c'est des choses qui ont évolué également?
Alors non, j'ai toujours été dans la figuration. Je pense qu'on pourrait vraiment faire un vrai lien. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose qui a perduré entre ce que je faisais à l'époque et ce que je fais aujourd'hui en illustration, parce que j'étais vraiment sur une figuration en cherchant quelque chose de très schématique, synthétique, presque iconique. Ce que je fais toujours dans mes livres. Donc je crois qu'il y a quelque chose qui s'est pas perdu. Enfin, il n'y a pas une rupture,
Très bien,
vraiment.
très bien. Donc on regarderait des choses, des œuvres que vous avez peut-être d'ailleurs conservées, en partie de cette période, on vous retrouverait.
Je sais pas, moi je m'y retrouverai en tout cas.
Vous avez utilisé un autre terme qui m'a intéressé. Vous avez dit, voilà, j'étais une jeune fille quand j'ai commencé à travailler et mon travail n'était pas très abouti. Alors j'entends bien ce que vous dites par aboutir, mais je trouve que ça mérite d'être un peu développé. Qu'est-ce que vous entendez par le travail finalement d'un artiste qui est plus abouti?
En fait, aujourd'hui, je pense qu'en fait, on ne progresse que par le travail. Hein. Donc, le travail, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais je crois qu'on a besoin de durée, en fait. Hein. Je crois vraiment qu'il n'y a pas de mystère, quoi. Je crois pas trop au talent. Je crois plus au travail qu'au talent. Et je crois que le travail, ça s'étale sur le temps. Donc il faut que ça évolue, il faut que ça macère, il faut tout ça. Donc.
C'est une réflexion personnelle, c'est aussi un engrangement d'expérience, de savoir, c'est ça?
Ouais.
Et de pratique, bien
Oui,
sûr.
et
Hein.
de pratique, parce que c'est en faisant qu'on apprend d'abord, et puis c'est en faisant qu'on trouve des choses, ces choses on les réutilise, on les remet en jeu, on les rejoue sur le tapis et il en sort quelque chose d'autre. Voilà. Donc quand on commence, c'est marrant parce qu'en même temps, je crois que quand on commence, il y a quelque chose qui est très vrai au début, qui est vraiment le truc du débutant, et souvent on se dit, ah mais ça, peut-être que je l'ai perdu après. Mais bon, souvent ça a un petit côté un peu naïf, un peu, des fois un peu premier degré. Donc après, tout ce qu'on a, il faut le mettre en jeu sans cesse et pendant longtemps pour que ça donne une œuvre éventuellement.
Et j'imagine aussi que, dans ce que vous me dites, finalement, quand on se dit on a peut-être perdu un peu de la naïveté ou des envies premières, mais peut-être que vous les avez assouvies, ces envies, et que donc vous passez à autre chose.
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je trouve que souvent, dans les premiers travaux, dans les premières œuvres, il y a quelque chose d'important qui reste.
D'accord.
Même si c'est pas abouti.
D'accord. Vous avez toujours autant de plaisir à travailler aujourd'hui ?
Oui, j'ai toujours autant de plaisir. Après, le plaisir dans le travail, c'est quelque chose qui se discute, parce qu'on n'a pas du plaisir tout le temps. Hein. Parfois, on a de la peine, parfois on a du mal, parfois on a de la colère. Enfin, voilà, c'est pas toujours facile. Donc la notion de plaisir... parfois c'est ce que j'explique à mon fils, c'est que même quand on fait quelque chose qu'on aime, on n'a pas du plaisir tout le temps. Parfois c'est difficile, c'est...
Je crois que c'est vraiment quelque chose, j'ai envie de m'y attarder un petit peu, non pas que je cherche à être négatif, mais je crois que c'est vraiment, en plus on est dans une époque aujourd'hui, j'ai des enfants, je trouve qu'on a du mal à expliquer, déjà nous on avait du mal par rapport aux générations qui nous ont précédées, peut-être que la télévision, peut-être que certaines facilités à voir et à savoir un peu superficiel nous ont fait penser que les choses n'étaient plus de l'ordre de l'artisan, du travail, de la continuation et de l'importance du travail. Vous avez beaucoup insisté sur ça et je pense que c'est, on n'insistera jamais sur le travail en fait. Mais j'aimerais bien m'apesantir un peu là-dessus, sur ce qu'est le travail au quotidien et qu'est-ce que vous entendez par les douleurs, les difficultés, les obstacles. Enfin voilà, de façon très concrète, vous êtes une personne autrice, illustratrice installée, ça veut dire que vous avez persévéré dans votre art, donc vous êtes passé au-delà de, justement, de tout ce qui fait qu'on décroche. Et vous diriez que c'est d'abord, à quoi autant que possible vous êtes confronté, si vous arrivez à en vous rappeler, et puis qu'est-ce qui fait que vous êtes passé par-dessus ?
Alors, déjà, j'ai fait une cinquantaine d'albums, mais je me demande toujours si je ne vais pas décrocher. J'ai l'impression que chaque fois que j'en refais un, que je refais un projet, je remets tout en jeu. J'ai pas du tout l'impression de pouvoir vivre sur mes acquis. Donc ça, c'est la première chose. Des difficultés, il y en a toujours. Elles sont diverses, hein, ça dépend des projets. Parfois, on a une idée, on n'arrive pas à la mettre en texte, on n'arrive pas à la mettre en image. Entre une idée et un livre, une idée ne fait pas un livre. Hein. Et d'ailleurs, entre l'idée et le livre, il y a tout ce temps de travail, transformer une idée en quelque chose qui peut devenir un livre. Parfois, on tient quelque chose, mais on n'arrive pas à finaliser toutes les étapes. Moi, je parle souvent d'un de mes livres qui s'appelle « Caché », qui est paru en 2017 et qui est le premier roman pour les bébés que j'ai mis 15 ans à faire. Entre le moment où j'ai eu l'idée et le moment où il est sorti. Alors bien sûr, pas 15 ans à temps plein, hein. On n'a pas du tout les moyens pour travailler 15 ans à temps plein. Mais voilà, il y a plein de difficultés qui parfois apparaissent là où on ne s'y attend pas du tout. Alors comment je les surmonte et pourquoi ? Je ne sais pas dire, parce que c'est important pour moi, parce que j'ai envie d'aller au bout, parce que je suis obstinée quand même. Y a plein de projets où j'ai dit j'abandonne. Et puis j'abandonne un moment, mais je reviens dessus. D'ailleurs, maintenant, parfois, quand je dis à mon mari, ah non, celui-là, j'en ai marre, j'y arriverai pas, j'abandonne, il me croit plus, il me dit, mais tu dis ça à chaque fois. Donc, moi, j'aime beaucoup apprendre. Et en travaillant, j'apprends. Donc j'essaye de continuer.
Les neurosciences parlent de désir profond. J'espère ne pas dire de bêtises. Mais en fait, voilà, c'est ce genre d'activité qui fait que même si à l'excès, ça rapporte rien, c'est que des ennuis, on y revient parce que de toute façon, on en a besoin. et qu'on en a un désir profond, mais aussi un plaisir profond, évidemment, une Bien satisfaction sûr. Profonde. Vous travaillez, en fait, dans la genèse de vos œuvres. Alors, bon, déjà, on va reprendre un peu la chronologie. Donc, je vous ai laissé à un certain moment sur des grands formats à Mulhouse, dans un atelier collectif. D'ailleurs, vous êtes vraiment dans le poncif des Beaux-Arts. Là, c'est vraiment les artistes qui récupèrent une masure ou un atelier. Vous avez fait ça pendant combien de temps ?
Alors, je pense que c'est très très loin, hein, mais je pense que j'ai dû peindre pendant 2-3 ans, je pense.
Ça fait du temps quand même. Hein. Ouais. Avant, donc pendant 2-3 ans, c'est 2-3 ans de production régulière avec tout l'entraînement que peut supposer un atelier avec des copains et des copines qui également travaillent, et donc chacun, il y a une émulation forcément, et c'est l'intérêt de tout ça. Est-ce que c'était le cas ?
C'était quand même assez dilettante. Enfin, voilà, j'étais... C'est compliqué aussi quand on se met à travailler seul, de trouver son rythme, de dire, finalement, il n'y a rien qui m'oblige à aller travailler. Voilà, il faut que j'y aille tous les jours. Enfin, voilà, il y a tout cet apprentissage aussi qui n'est pas du tout évident. Et d'ailleurs, moi, aujourd'hui, je n'ai plus aucun problème avec ça, mais je sais qu'il y a encore des amis qui me disent « Mais comment tu fais pour te motiver toute seule alors que tu n'as personne qui te dit « Il faut que tu ailles travailler », etc. » Donc, il y a aussi eu ça, il y a eu ce... J'étais plus à l'époque quand même en dilettante où à la fois je doutais beaucoup, à la fois j'avais envie de faire quelque chose, à la fois que je trouve ce temps, enfin que cette organisation qui n'était pas simple... Hein, donc tout ça se mélange, je pense, avec beaucoup de doutes aussi, parce que quand on débute, qu'on ne gagne pas un rond, qu'on a aussi un peu besoin de faire des petits boulots alimentaires, toute cette organisation à mêler et à vivre. Donc non, je ne peux pas dire que j'ai travaillé vraiment d'arrache-pied pendant 2-3 ans, mais en tout cas, c'était un peu mon ambition avec les moments dilettants.
Bon, c'était un petit peu dur avec vous-même, parce que vous étiez une très jeune femme. Voilà. Donc, vous avez vécu aussi ces années-là, qui sont les années où on se cherche. J'imagine bien sûr que la routine que vous avez mise en place depuis tous ces albums, c'est finalement quelque chose qui rarement arrive à quelqu'un qui vient de passer ses études. Et c'est compliqué, hein, je veux dire, aussi de faire ça. Avec le recul, vous pensez que cette période, pour en finir pour ce côté bohème, que les moins de 20 ans, est-ce que vous pensez que cette période... qui paraît un peu, dans votre récit, un peu anecdotique, est-ce qu'elle est finalement très importante ? Oui, non ?
Je crois qu'elle est importante, ouais, parce que elle est importante à la fois parce que c'était une espèce de première expérience, et puis elle est importante aussi parce qu'à un moment, se dire « ceci n'est pas ma place », c'est quelque chose d'important aussi. C'est se dire, je veux aller ailleurs, où on ne sait pas forcément. Mais c'est quelque chose d'important, de pas très facile. Moi, c'est des années, même les années Beaux-Arts, c'est des années qui ont été très enrichissantes, mais que je n'ai pas trouvé très facile, pas très confortable forcément, dans tout ce qui est des doutes et des questionnements qu'on a, je sais pas. D'ailleurs, peut-être que les années des 20 ans qu'on met tellement... en exergue, c'est pas sûr que ce soit les meilleures années de nos vies.
Je partage un peu votre avis, j'ai l'impression. Je m'étais dit, moi aussi, les 20 ans, tout le monde m'en parle. Je passais au train dans les 20 ans, j'ai pas eu l'impression réellement que c'était le grand moment d'épanouissement que j'attendais, sur tous les plans d'ailleurs. Donc, vous finissez par... l'expérience est confrontée à une réalité, en tout cas. Vous vous rendez compte que les grands formats, en tout cas, peut-être vous aviez plaisir à votre art, mais pas forcément le plaisir de fréquenter, comme vous avez dit, le milieu des galeries d'art qu'il fallait séduire, quelque part. Vous étiez peut-être une jeune fille un peu timide encore à ce moment-là, ou pas du tout ? C'était juste simplement que...
Si, pas très assurée. Ouais. Pas très assurée.
Bon. Pas très assurée, mais au bout d'un moment, la réalité et les nécessités font que vous devez prendre une décision. Donc à un moment donné, vous quittez l'atelier. Comment ça se passe ?
En fait, je suis partie en voyage pendant plusieurs années.
C'est-à-dire que vous avez décidé de quitter pour faire un voyage ou c'était le voyage qui s'est imposé et puis le reste, voilà, vous êtes...
Non, c'est le voyage, c'est une rencontre et le voyage qui s'est imposé. Donc, je suis partie plusieurs années. Et en fait, pendant ces années, quand on me disait « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?», je disais « je dessine ». Et en fait, c'était pas vrai, parce que j'avais complètement arrêté de dessiner. Et au bout de ces quelques années, quand je suis rentrée, je me suis dit « bon, voilà, je dis toujours que je dessine, c'est ce à quoi j'aspire, peut-être, mais je le fais pas ». Et là, j'ai décidé de prendre un moment, donc de retour à Mulhouse, de prendre un moment et de me dire « je me donne un an ». Dans cette année, je travaille et au bout d'un an, je fais le point. Soit ça donne quelque chose et je continue, soit ça donne rien et je me réoriente, je trouve un boulot normal. voilà. Et donc, je suis rentrée et je me suis mise au travail là vraiment avec beaucoup de sérieux, du coup, plus du tout de dilettante. Je me suis mise à dessiner, à explorer et... J'aimais beaucoup, j'aime toujours d'ailleurs, c'est toujours une passion, j'aimais beaucoup les motifs, donc je dessinais beaucoup de motifs, comme ça, j'aime beaucoup les répétitions, j'aime beaucoup Matisse, mais j'aime aussi beaucoup le travail de Claude Viala, et donc j'ai commencé à dessiner, à faire pas mal de gouache avec des motifs, des répétitions, etc. Et tout à fait par hasard, par une amie commune, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait chez TexUnion, qui était une boîte de textile à Mulhouse, et qui m'a dit « montre-nous ce que tu fais ». Et en fait, je suis allée avec mon carton à dessin et mes trucs, que je ne savais pas à quoi ça pouvait servir. Et en fait, je suis ressortie de là et j'avais vendu 3 dessins pour du tissu. Donc ça m'a ouvert des portes, assurément ça m'a donné une orientation aussi, je me suis dit tiens là il y a des débouchés parce qu'il y a ce qu'on veut faire et puis aussi le côté économique, enfin il faut aussi gagner 3-4 sous pour se nourrir. Et donc j'ai continué un peu à faire des motifs et à vendre des dessins pour du textile et c'est aussi là donc... Ma sœur m'a annoncé qu'elle allait avoir une petite fille et que je me suis dit, tiens, je sais dessiner si je faisais, au lieu d'acheter un doudou, un pyjama, si je faisais une histoire avec un personnage et puis pour lui offrir. Et je me suis mise à faire ça. Parallèlement aussi, d'ailleurs, dans la librairie de Mulhouse, dans la bibliothèque, pardon, de Mulhouse, ils proposaient une formation qui s'appelait 1, 2, 3, compter. Où ils nous proposaient en échange de formation, de week-end de formation avec des conteurs ou des lecteurs professionnels, ils nous proposaient d'aller raconter bénévolement dans des écoles. D'accord. Donc j'ai commencé ça aussi et j'ai eu vraiment un immense plaisir à raconter ou à lire des livres ou à raconter des histoires à des enfants. Ça a été vraiment une grande révélation. Et voilà, et les choses se sont mises en place comme ça. Le projet que j'ai fait pour ma nièce, raconter des histoires à l'école, etc. Ce qui fait qu'à un moment, je me suis dit, je vais essayer, quoi. Et j'ai fait 3 projets d'album, tout en ne sachant absolument rien de ce qu'il fallait faire. Juste en me basant, en allant beaucoup regarder dans les librairies, dans les bibliothèques, qu'est-ce qui se faisait, qu'est-ce qu'on pouvait faire, etc. Et j'ai fait ces 3 projets et je me suis dit, mais j'adore faire ça. Quoi.
D'accord, ça y est, vous aviez trouvé quelque chose en tout cas qui va beaucoup occuper votre vie jusque-là. Moi, je trouve que vous êtes passé, et j'aime beaucoup cette émission, parce que dans cette émission, en fait, on est tous pareils. On raconte des choses et puis on passe vite sur certains éléments. Et puis là, vous m'avez raconté, je suis partie à l'étranger, vous êtes illustratrice, vous êtes auteur, mais je suis partie à l'étranger, une traversée du désert complètement... expliquez-moi, vous êtes partie.
Alors, je suis partie en Espagne, au Portugal. J'ai traversé l'Atlantique en voilier. Je suis allée aux Antilles, aux Bahamas, aux Turques et Caïcos, aux îles Vierges, à Porto Rico, un peu dans le désordre, aux Bermudes.
D'accord.
Et voilà.
Et vous êtes revenue.
Et je suis revenue.
Toujours en traversée, en voilier.
Je suis revenue en avion.
En avion, cette fois-ci. D'accord. Et là, quand vous revenez, maintenant, on va cercler les choses et on va commencer à bosser. C'est
ouais,
ça ?
C'est ça.
Bon. Mais, encore une fois.
Parfois, je dis j'ai pris ma retraite avant de commencer à travailler, moi.
Ouais, vous avez fait les choses à un certain ordre. Bon. D'accord. Donc, vous êtes quand même une personne du Nord-Est, Mulhouse. Vous avez dit à un moment donné, moi, je pars pas à Nîmes, c'est trop chaud. Et puis là, vous retrouvez quand même à Turcos. Donc, il y a des influences, il y a ce soleil. Est-ce que ça se retrouve ? Est-ce que c'est quelque chose qui, à un moment donné ou un autre, il y a aussi une culture graphique, dans les Antilles en particulier. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a, à un moment donné, marqué et qui a marqué votre travail par la suite ?
Eh bien, je ne sais pas, parce que j'avais vraiment, à ce moment-là, vraiment tout arrêté. Je dirais que ce qui a peut-être plus marqué mon travail, c'est le contact avec la nature, hein, qui là, pour le coup, est plus la mer, voilà, les poissons, enfin, voilà, peut-être ça, plus que... J'ai pas l'impression que ça ait beaucoup marqué mon travail. Bon, après, je suis à Marseille. Hein.
Ah, c'est toujours... non, moi, il n'y a pas d'obligation, évidemment, dans les questions. C'était juste une piste. Il y a une autre chose que vous avez dite et sur laquelle je voudrais revenir. C'est que vous parliez du fait que vous disiez... Ben je disais partout que je dessinais, mais je ne dessinais pas sur un papier, sur un support. Est-ce que vous ne pensez pas que vous avez dessiné, que votre travail s'est passé aussi beaucoup dans votre tête et que c'est quelque chose que vous avez engrangé, que vous avez construit de manière neuronale, pour dire les choses, et qui s'est retrouvé, puisque finalement, est-ce que vous avez eu la sensation quand vous êtes remise au travail, cette fois-ci vraiment dans une pièce fermée avec une routine, est-ce que finalement votre art, vous avez eu l'impression qu'il avait un petit peu évolué et peut-être même s'était bonifié parce que finalement vous aviez travaillé ?
C'est sûr. C'est sûr parce que d'abord, le dessin, c'est du regard. Hein. Dessiner, c'est d'abord regarder. Et j'ai eu beaucoup de temps pour regarder. Et puis après, le travail de création, enfin, c'est quelque chose d'étrange, même si moi, je crois au travail, enfin, un peu à la sueur. Le travail de création, c'est quelque chose qui se fait aussi... j'allais dire au-delà de vous, mais en arrière-plan parfois. Donc c'est sûr que les choses, parfois, elles travaillent sans que vous vous en rendiez compte que dans sa tête, on a des choses au travail tout le temps. Oui, c'est sûr.
Quand vous reprenez le travail à Mulhouse, que vous remettez dans une pièce, que vous travaillez avec des horaires, est-ce que vous avez l'impression d'une facilité à retravailler ? Est-ce que vous avez repris des habitudes de travail, une forme de corps tout de suite ? Est-ce que c'est comme le vélo ? Est-ce que ça se perd pas ? Ou est-ce que finalement, parce que là on va revenir à quelque chose d'important pour vous et pour tout le monde je pense, qui est la sueur du travail, le travail remis tous les jours et qui fait que ça se bonifie, voilà, le travail quoi.
Alors déjà, moi, j'ai un problème avec le vélo parce que chaque fois que je remonte sur un vélo, je ne sais plus en faire. Donc, voilà. C'est dit. En tout cas, quand je suis rentrée, je me suis mise au travail assez facilement, mais je crois parce que j'avais une motivation aussi. J'avais passé ces quelques années qui ont été géniales, mais voilà, j'avais envie, j'étais quand même en train de me dire, il y a quelque chose que j'ai pas fait et qui est important pour moi, et si je le laisse passer, ben je le ferai pas. Donc j'avais cette motivation et ce truc de me dire, si tu veux le faire, fais-le. À un moment, personne ne le fera à ta place, donc vas-y. Donc oui, je me suis remis au travail du coup très facilement parce que je me suis dit, c'est le moment, il faut y aller.
Ouais. D'accord. Alors, on va finir par arriver, bien sûr, sur votre travail actuel. Donc, vous présentez ces trois projets, puisque vous les mettez en place, mais j'imagine bien que vous les présentez. Comment ça se passe ? À qui ? Et à quoi vous êtes confronté à ce moment-là ?
Eh bien, en fait, c'est une histoire qui est un peu rigolote, parce que J'ai aucun lien avec l'édition, je sais pas du tout comment ça se passe, je connais personne dans le milieu, donc je sais vraiment pas quoi faire. Et je décide d'aller voir la libraire jeunesse de la ville de Mulhouse, que j'ai déjà vue en conférence, qui est une dame très engagée, qui a pas du tout sa langue dans sa poche. Et je me suis dit, finalement, c'est mon seul lien avec ce milieu. Donc je la sollicite et je lui dis, voilà, moi j'ai fait des choses, je ne sais pas ce que ça vaut, je ne sais pas si ça peut donner quelque chose, est-ce que je peux vous les montrer et est-ce que vous pouvez me dire quelque chose? C'était en mars 98 et je me souviens, mais comme hier, quand j'y suis allée avec mon petit carton à dessin sous le bras, pétrifiée. Et donc je lui montre mes projets et là elle me dit, mais c'est très bien ce que vous faites. Je pense que ça peut faire des livres. Et elle me dit, vous savez quoi, en ce moment, c'est le Salon du Livre de Paris. Alors demain, vous prenez le train, vous emmenez ça, vous allez sur le stand des éditeurs et vous allez leur présenter. Et là, je lui dis, non, non, je ne suis pas du tout prête, il y a encore des choses qui ne sont pas bien, etc. Et elle me dit, mais c'est ça la vie. Si vous attendez d'être prête, vous ne serez jamais prête. Et en fait, je rentre chez moi et je me dis, elle a raison. Et je me dis, surtout si j'attends, j'oserai plus jamais y aller. Et donc, je prends le train le lendemain, je vais au Salon de Paris et je commence à faire le tour des éditeurs sur les stands. Alors, bizarrement, je me dis, je vais commencer par les petits éditeurs parce que les gros vont m'envoyer promener. Et puis, finalement, il y a des petits éditeurs qui m'envoient promener et des gros qui me reçoivent très bien. Donc, voilà. Mais en tout cas, j'ai la chance de rencontrer les éditions Thierry Magnier. Qui me propose de revenir les voir à Paris la semaine suivante, et les éditions Frimousse. Et en fait, les éditions Thierry Magnier m'ont tout de suite proposé un texte à illustrer. Alors, ils me disent, ces projets-là, pour le moment, on n'a pas de place, mais on a un texte à illustrer, si ça vous intéresse. Alors moi, je sais déjà que ça ne m'intéresse pas du tout d'illustrer le texte des autres, mais bon, j'ai jamais rien fait, on me propose du boulot, je me dis c'est une façon de mettre un pied dans le milieu, donc je vais pas dire non. Et donc il me propose de faire 3 illustrations en essai et je fais ça et ça marche. Et mon premier album, donc que j'ai uniquement illustré, sort en novembre 98, donc quelques mois après, très très vite. Et dans le même temps, j'avais rencontré les éditions Frimousse qui ont pris un de mes projets qui est sorti en janvier 99, je
là,
pense.
Vous étiez autrice.
Ouais, autrice illustratrice. Ouais.
D'accord. Comment ça? Après, qu'est-ce qui se passe? Alors bon, un premier, première réussite. D'abord déjà une œuvre personnelle qui est sélectionnée. Les éditions Magnier qui vous donnent quelque chose du travail. Ça veut dire que déjà au niveau de l'illustration, par eux, vous êtes reconnu comme valide et légitime. Mais il y a toujours l'excitation des premiers et puis il y a derrière. Alors comment ça se passe derrière?
Et ben au début, avant le premier, on se dit ouais, quand j'en aurai un je serai tranquille, et puis finalement on se rend compte qu'on en a un et qu'on n'est pas plus tranquille, et même qu'on en a deux et qu'on n'est pas plus tranquille. Mais en fait, pour moi la machine est enclenchée, et j'ai des idées et je continue à travailler et je continue à faire des projets et à les proposer, en sachant que bah, par exemple les éditions Thierry Magnier avec qui je travaille toujours aujourd'hui et avec qui j'ai fait, je sais pas, mais pas mal de livres, peut-être une vingtaine, dont beaucoup qui n'existent plus, ils m'ont accepté pas mal de projets mais ils m'en ont refusé pas mal aussi. Donc
ça fait partie du jeu, hein.
Ouais, ça fait partie du jeu. C'est pas non, parce que parfois les gens pensent que une fois qu'ils vous ont accepté un projet, ils vont vous accepter tous les autres. C'est pas le cas du tout. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai des idées, je continue à travailler, je continue à faire ce que j'aime aussi, c'est-à-dire moi quand je fais des projets, je les propose pratiquement aboutis.
D'accord.
Ils sont presque finis. Je travaille pas du tout sur des projets de commande, je sais pas faire et j'ai pas envie.
Oui, déjà, ce que vous n'aviez pas envie de faire, de toute façon, vous avez pu à un moment donné dire voilà, j'ai fait ponctuellement. Ça vous est arrivé par la suite de recommencer à faire un travail de commande parce qu'on vous a dit non, vraiment, là, Corinne, s'il te plaît, fais quelque chose, non?
Non, non. Alors d'abord, on m'en a pas beaucoup demandé, très honnêtement. Et en fait, il m'est arrivé que deux fois d'illustrer un texte qui n'était pas à moi. C'est donc cette première fois, ce texte qui s'appelait « Des baisers » chez Thierry Magnier, et un autre album chez Frimousse qui s'appelle « Harry le poisson qui pleure », où là, c'était une expérience différente puisque c'était une amie qui avait écrit le texte et qu'on a travaillé un peu ensemble.
D'accord.
Mais c'est vrai que je me sens pas illustratrice en fait. Je me sens pas je me sens pas légitime et j'ai pas envie d'illustrer le texte de quelqu'un d'autre. Par contre, il m'arrive d'écrire un texte et de pas l'illustrer moi-même.
D'accord. Oui, vraiment, vous passez. Enfin, dans tous les cas de figure, vous contrôlez le sujet de ce que vous. Donc, ce que l'on a bien compris dans ce que vous avez vient de dire, c'est que finalement, maintenant, vous savez, vous connaissez les formats, vous connaissez les exigences de l'éditeur. Ça a été un changement terrible parce que du coup, le formatage, le calibrage des choses, bah, vous le connaissez.
Oui, je le connais, mais je dirais que c'est pas le plus important, parce que le formatage, le calibrage, bon, c'est sûr que ça simplifie la vie. Enfin, on sait un peu ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire, donc quoi que ce qu'on peut pas faire, on peut parfois pousser les limites très loin, enfin. Mais après, enfin, je suis toujours dans le même questionnement quand je fais un projet. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est... Je dis souvent que pour moi, créer, c'est du mouvement. Hein, déjà, c'est un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur parce que c'est toujours quelque chose qui m'intéresse moi. Je ne me dis pas, par exemple, je vais faire un truc qui intéresse les enfants. C'est pas ça. C'est moi, ça m'intéresse. Moi, j'ai envie de chercher quelque chose autour de ça, autour d'une sonorité, autour d'un système, autour... Je parle pas beaucoup en thème. Hein. Et donc, c'est d'abord moi que ça interpelle, que ça intéresse. Et après, ça va vers l'autre. Donc après, je me questionne sur mon public aussi. Mais c'est d'abord personnel. Et puis après, c'est beaucoup d'aller-retour entre doute et certitude. Parce que je doute beaucoup. Mais aussi, j'ai aussi besoin de certitude. Enfin, je parle souvent de cachet où à un moment j'ai dit je veux faire un livre pour des tout petits où il n'y a pas d'image, où il n'y a que du texte. Ça n'avait jamais été fait et ça, j'ai mis 15 ans à le faire, mais il a fallu que j'aie la certitude absolue que ça pouvait intéresser des tout petits, outre que ça m'intéressait moi, pour que je passe outre ces 15 années de doute.
Bien sûr.
Donc c'est, voilà, je trouve que c'est beaucoup pour moi un mouvement, un balancement entre doute, certitude, voilà, qui me permet d'avancer.
Vous mesurez un petit peu le privilège que vous avez de vous dire, bah moi je suis désolé, mais ça doit d'abord m'intéresser, parce qu'on est aujourd'hui dans une époque où je trouve qu'on fait beaucoup de choses justement parce que ça marche, c'est-à-dire on a le côté commercial. Le côté, je dirais, l'art pour l'art me semble un peu disparaître au profit d'un certain utilitarisme des œuvres et du travail. On fait des choses parce que ça marche, on fait quelque chose parce que c'est la tendance. Je trouve qu'il y a une influence peut-être un petit peu, je ne veux pas être trop... il y a une influence un peu américaine, c'est-à-dire qu'on voilà, on est un marchand et vous non.
Oui, alors, c'est sûr que c'est de la chance, après ça se paye. Ça se paye en termes de revenus, de ventes, assurément. Parfois, je pense que j'aurais bien aimé savoir faire des produits, mais je ne sais pas faire. Je ne sais pas, s'il n'y a pas une espèce de nécessité, j'y arrive pas. Donc, je ne sais pas faire. Et puis après, j'ai aussi la chance de travailler avec des éditeurs qui me laissent cette liberté. Ça, c'est important, hein, parce que je dis souvent, voilà, quand je discute avec des collègues, parfois quand ils disent bah, l'éditeur, il a dit on va demander aux commerciaux, bah, quand on commence à demander aux commerciaux, c'est un peu le début de la fin. J'espère que les commerciaux qui écouteront cette émission ne m'en voudront pas, mais enfin, voilà, ils ont une place et un intérêt réel, mais pas, peut-être pas dans le questionnement de la création. Et voilà, mais oui, j'ai beaucoup de chance, c'est sûr.
Alors, on va parler un petit peu concrètement sur... je vais être provocateur. Sur le produit que vous proposez. C'est combien de pages une illustration d'une création pour enfants? C'est combien d'illustrations? C'est quel temps de travail en moyenne? Est-ce que...
Alors ça peut être très très variable en fait, ça dépend un peu, par exemple il y a des livres pour lesquels je rentre dans une collection, donc je sais qu'ils vont rentrer dans cette collection et je sais que cette collection c'est 11 doubles par exemple, et je sais par exemple la collection Pim Pam Pom chez Thierry Magnier, je sais qu'il y a 11 doubles, qu'on a droit à deux couleurs plus du noir,
22 pages, hein, 11 doubles, c'est ça?
ouais je crois que c'est 24.
24
Ah,
pages.
je ne sais toujours pas compter les pages.
D'accord. Non, mais voilà, c'est en tout
Mais
cas
ouais, parce que je
petite
crois qu'on
idée.
c'est décartonné, donc je crois qu'on compte la couve et
Oui.
la quatrième.
D'accord,
Donc
ok.
ça doit faire 24. Ouais.
24. Pour vous, combien d'illustrations?
Et ben 24, du
24.
coup.
Ah oui, vraiment, d'accord.
Ouais,
Chaque page
ouais.
étant, d'accord.
S 24 ou 12, parce que
Ah
on peut, c'est une
oui.
illustration par double page plutôt.
J'entends, d'accord. Ça veut dire combien de temps de travail pour vous?
Très variable aussi. Ça peut. Parfois, je vais très vite pour faire la majorité et il y en a une où je passe un temps infini. J'ai un peu du mal parce que d'abord, il y a le travail d'écriture et celui-là, j'ai du mal à le quantifier.
Bien sûr.
Je dis souvent aux enfants, enfin pour leur donner une image, je leur dis j'ai un truc dans ma tête et j'y pense quand je prends ma douche, quand j'épluche mes carottes, quand je suis dans le bus, etc. Donc il y a tout ce temps. Après, il y a le temps, une fois que je le mets sur une feuille ou sur mon ordi, peu importe. Il y a aussi le temps de réécriture, de trouver. Moi, j'écris des textes très très courts, hein, puisque je travaille beaucoup pour des enfants de moins de 3 ans. Donc, je suis sur des textes très très courts et dans un texte très très court, chaque mot doit vraiment être à sa place.
Il est important,
Ouais,
bien
ouais.
sûr.
Donc, il y a un vrai travail de réécriture, de trouver le bon mot qui est à la bonne place. Donc, ça, c'est du temps. Et après, le travail d'illustration, c'est vraiment très variable d'un livre à l'autre. Je dirais, ça peut me prendre 2 mois, comme ça peut me prendre plus ou moins.
J'entends. Oui,
Ouais,
je
c'est.
c'est on voit, voilà ce que. Parce que moi, toute réponse est bonne pour moi. Hein, j'attendais aucune réponse. On comprend dans votre métier que c'est un travail de création, que ça se mûrit, que ça vient à maturité, que ça se réalise. Et j'imagine bien que, bien sûr, il y a, entre l'idée et la réalisation, est-ce que vous avez souvent, par exemple, vous avez envie d'illustrer en faisant ce dessin, puis vous n'arrivez pas, ça ne rend pas bien? C'est quoi qui fait que ça vous arrête? Qu'est-ce qui fait que vous vous dites, bon. Voilà, ce dessin-là, il me convient, il est bien par rapport à ce que j'avais, parce que vous devez certainement renoncer à votre idéal rêvé.
Ouais, bien sûr. Et bah, parfois, on ne sait pas trop. Parfois, il y a une image, elle est bancale, elle ne tient pas debout. Et parfois, j'ai du mal à parfois savoir pourquoi. Il y a l'autre expérience aussi, parfois, qui est drôle, qui est quand des fois, on sent qu'il y a une image ou deux, où il y a des faiblesses, et puis on se dit, waouh, c'est bon, ça va aller, quoi. Et là, on le présente à l'éditeur et il dit, ah, là. Non, ça va pas. Et on se dit, bon, ça va. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Enfin, voilà, parfois aussi, je présente. Je l'ai dit, hein, moi, il y a beaucoup d'auteurs-illustrateurs qui présentent un texte, un chemin de fer et une ou deux images. Moi, je ne sais pas bien faire les chemins de fer. J'ai besoin de voir comment c'est. Donc, je fais des images presque finies.
Oui.
Mais parfois, il m'arrive de revenir dessus après l'avoir présenté à l'éditeur parce que je me rends compte, ces remarques font que je me rends compte de faiblesse. Et parfois, je me dis, mais comment il m'a dit oui sur ça? C'était pas bien en fait.
D'accord.
Donc, il y a tout ce travail un peu de. Là aussi, le temps est important en fait. Parfois, quand on est dedans, le temps parfois que met l'éditeur pour répondre, pour réagir, etc. C'est bien parce que ça fait un laps de temps qui nous donne de la distance et qui du coup nous fait revoir les choses différemment.
Je voudrais un petit peu développer cette relation avec l'éditeur. Donc vous avez vous principalement, si je comprends, deux éditeurs avec lesquels vous travaillez beaucoup, mais peut-être d'autres personnes,
Ouais, trois, je dirais.
trois personnes maintenant qui sont donc
Alors, qui sont qui?
Qui sont les éditions Thierry Magnier, où je travaille avec Camille Gauthier, les éditions Frimousse, où je travaille avec Sophie Corvézier, et le Seuil Jeunesse, où je travaille avec Angèle Cambournac.
D'accord, voilà. Donc, vraiment une relation qui, voilà, maintenant, c'est des amis. Enfin, c'est en tout cas une relation d'amitié.
C'est une relation professionnelle, quand
professionnelle.
Même.
Professionnelle. Vous avez raison, vous avez raison. Mais peut-être pas trop facilement de l'amitié. Mais en tout cas, c'est des personnes qui vous connaissent, qui vont relativement au fond des choses avec vous, puisque vous parlez d'un objet commun, vous discutez, c'est genre avec qui vous passez du temps. Vous diriez que vous êtes influencé par la personnalité et les choix de votre éditeur, et que finalement votre travail, qui est bien le vôtre, mais il va quand même dépendre de votre interlocuteur, interlocutrice, ou pas du tout, et finalement, c'est eux qui quelque part, commencent à adopter votre sensibilité.
Ben, je dirais pas ça, parce que, en fait, moi, je fais un projet, et après, je me dis à qui je vais le proposer, enfin, dans la plupart des cas, pour qui c'est.
Ah oui, d'accord.
Voilà, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, parfois je sais que je me dis tiens, j'ai envie de faire un nouveau livre dans cette collection, donc là je vais rentrer, mais souvent je fais un projet, je me dis bon, je vais le proposer à qui, je vais le proposer à Thierry Magnier, je vais le proposer au Seuil ou chez Frimousse. Je sais aussi que les livres que je fais chez les uns ou chez les autres ne sont pas tout à fait pareils, hein, parce que l'éditeur a aussi un peu sa marque de fabrique. Je sais que il va influencer un petit quelque chose qui va faire que le livre ne va pas être pareil. Et puis parce qu'aussi, je pense que je ne leur propose pas les mêmes projets aux uns et aux autres. Je me dis, tiens, ça c'est pour lui, ou ça c'est pour elle, ou comme ça.
Oui, c'est un petit peu la base de tous les auteurs. On demande souvent à l'auteur qui, le wannabe ou l'auteur confirmé, de choisir la maison d'édition en fonction de ce qui a déjà été publié et du style, du genre, etc.
Bien
donc
sûr.
Vous êtes exactement dans la même logique. C'est intéressant
de travailler, de changer en fait selon les perspectives de chacun, selon les demandes de chaque.
Oui, c'est intéressant. D'abord, ce sont quand même des, même si j'ai remis sur pas amis mais relations professionnelles, mais c'est des gens que je connais depuis longtemps, donc on travaille avec tous. Je travaille vraiment en confiance, ce qui est très important, hein, parce que j'ai eu d'autres expériences qui ont été compliquées. Quand on n'est pas en confiance, ben ça bouscule beaucoup le travail, et je trouve que le travail aboutit moins bien. Donc c'est des gens avec qui je suis en confiance. Mais on travaille différemment avec chacun. On a d'autres points d'accroche, d'autres. Ils sont plus ou moins interventionnistes. Ils réagissent sur des choses différentes. Donc, ce sont des aventures différentes avec les personnes différentes. Mais bon, ce sont des personnes avec qui avec qui je suis en confiance. Donc. Ouais, c'est intéressant, c'est différent, et puis ce sont des maisons d'édition différentes, donc qui sont plus ou moins petites, plus ou moins grandes, des machines différentes, avec des moyens différents aussi, donc on ne peut pas faire les mêmes choses aussi quand on n'a pas les mêmes moyens, donc tout ça rentre aussi un peu en ligne de compte. Et puis après, il faut essayer de faire le plus bel objet, parce qu'un livre, c'est pas seulement un texte et des illustrations, c'est aussi un objet. Hein, parce que les enfants, ce qu'ils vont tenir en main, c'est aussi un objet qui doit être adapté. Et donc, avec toutes les contraintes de moyens, de pas de moyens, de lignes graphiques de l'éditeur, de faire l'objet le plus réussi possible. Mmh. C'est toujours une aventure.
C'est vrai que j'ai, comme tout le monde, des souvenirs comme ça. Finalement, le livre de l'enfant, le livre que l'on tient dans ses mains quand on est un petit bout, c'est vraiment un livre important. Et je crois que c'est des livres dont on se rappelle toute notre vie. Je pense qu'on vous le dit souvent, donc c'est vraiment, il y a une importance de ce support. Est-ce que concrètement vous sauriez me parler, pour les gens qui auraient cette vocation, qui voudraient rentrer dans votre métier, il y a des gens qui vont nous écouter, qui disent tiens, moi j'aimerais bien faire ce métier-là, c'est quoi concrètement l'aller-retour que vous avez avec votre conseiller, conseillère, je crois que c'est plutôt des dames que vous avez,
des
éditrices, autrices et auditrices. Quel est l'aller-retour typique que vous avez? Vous présentez votre produit, pardon, votre livre.
Oui, pardon, vous allez vous reprendre.
Vous présentez votre livre, vous faites votre proposition. C'est une idée souvent que vous avez eue. Vous dites, tiens, je pense que ça pourrait vous plaire, c'est l'idée.
quelle est la, que, comment on réagit, quels sont les types d'arguments qui vous sont livrés par l'éditeur, qui seraient différents de ce que vous aviez en tête.
Ben, déjà, faut pas se cacher les yeux aussi. Le livre est au final un produit quand même, et les éditeurs ont besoin de vendre des livres. Donc il faut quand même qu'à un moment ils pensent que ça va intéresser des enfants dans une tranche d'âge, etc. Par exemple, si je prends, je vais prendre un exemple d'un de mes derniers livres qui est sorti au seuil jeunesse, qui s'appelle C'est l'histoire, qui en fait est l'histoire de fin de vie d'une vieille dame, qui est racontée très simplement. Mais en fait, c'est une vieille dame qui, un matin, décide de fermer ses rideaux, se déshabille, va se coucher, et pousse son dernier soupir et meurt. Enfin, c'est pas dit qu'elle meurt, mais on le comprend très bien. Et c'est un texte que j'avais proposé donc à mon éditrice Angèle Cambronac au Seuil, et qui est resté longtemps sur le bureau parce qu'elle m'a dit « c'est un super beau texte, mais voilà quoi, faut le vendre ». Et finalement, ils ont décidé au Seuil Jeunesse de le publier. C'était un pari. Alors, je ne l'ai pas illustré. C'est Charlotte Deligneris, qui est marseillaise aussi maintenant, toute nouvelle marseillaise. Qui l'a illustré. Et voilà. Il s'appelle C'est l'histoire.
C'est l'histoire.
Ouais. Et ça a été, voilà, c'est un texte qui est resté longtemps sur son bureau en disant qu'est-ce qu'on va bien en faire. Donc à un moment elle a dit allez on y va, et puis après moi je crois qu'elle n'a pas touché un seul mot de mon texte. Y en a très peu en même temps. Et après le travail a été avec Charlotte de comment illustrer cette histoire sans que ce soit, enfin ça parle de fin de vie, mais sans que ce soit vraiment plombant. Et Charlotte a hyper bien réussi, je trouve, à faire ça, parce qu'en fait c'est dans un environnement urbain, on voit des façades d'immeubles et puis on voit plein de fenêtres qui s'éclairent avec des gens qui vivent, des enfants qui naissent, des gens qui font des crêpes, voilà. Donc on comprend qu'une histoire finit mais que d'autres continuent, et ça je trouve qu'elle a vraiment réussi à ramener plein de vie dans ce projet. Donc voilà. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent me dire? Ils peuvent me dire. C'est difficile.
On vous remet quoi en cause?
Mais pas grand-chose en fait. Hein. Après, voilà, trouver des petites tournures de phrases, des mots qui. Mais souvent. Pas grand chose, ou alors ils remettent tout en cause et ils me disent le projet ne nous intéresse pas. Ça arrive aussi.
Donc on arrive à la fin de cet entretien. J'aimerais que vous me donniez, s'il vous plaît, trois titres qui. Je suis désolé, je sais que vous en avez. Donc combien vous en avez pris
Une bonne cinquantaine.
Vous en avez créé une bonne cinquantaine et je vous demande de vous rappeler de trois que vous mettriez en avant. Qui vous ont vraiment marqué, et peut-être de celles aussi. Je vous accorde le prochain projet s'il est important pour vous, s'il est particulièrement, voilà. Donnez-moi trois livres que vous avez qui vous ont marqué.
C'est hyper dur parce que tous les autres livres vont être super jaloux. Mais je dirais trois. Alors je dirais Pomme Pomme Pomme, voilà, aux éditions Thierry Magnier. Parce que d'abord c'est mon best-seller et puis je crois que c'est vraiment le livre qui m'a fait connaître en petite enfance. D'accord. Qui est devenu, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est d'autres qui le disent, un peu un classique en petite enfance. Et voilà, c'est un livre que j'aime beaucoup en plus, qui est un livre qui fonctionne beaucoup sur un principe de musicalité du texte et de sonorité. Donc un, pom pom pom. Je dirais Caché, parce que ça a été un vrai défi pour moi, qui m'a pris 15 ans pour le faire, entre le moment où j'ai eu l'idée et le moment où j'ai abouti. C'était vraiment en observant mon fils petit qui regardait le texte des histoires, alors qu'il avait quelques mois, me dire « mais bien sûr, le texte, la typo, ça intéresse les tout-petits, et faire un livre avec que du texte pour eux, ça a tout son sens ». Voilà, et après 15 ans à se dire oui, mais comment, pour faire quoi? Et Caché est sorti en 2017. Il a été accueilli un peu timidement, mais il fait sa petite vie et il continue à bien vivre. Et voilà, c'est un livre important pour moi.
Combien de pages?
C'est une bonne question, je ne sais pas, peut-être 48, un livre un peu gros.
D'accord. Publié chez?
Chez Thierry Magnier.
Chez Thierry Magnier, toujours, d'accord.
Et puis je dirais, c'est l'histoire au seuil jeunesse. Parce que là aussi, un texte qui a été un peu fulgurant pour moi, que j'ai un peu écrit dans un train comme ça, qui est sorti un peu en cascade, même si bon, après il y a eu tout un travail de réécriture et du bon mot à la bonne place, et un texte que je pensais tellement que je le caserai jamais. Je pensais tellement que c'était désespéré, et puis finalement l'immense surprise qu'Angèle Cambronac au seuil dise oui, que Charlotte l'illustre, que ça donne quelque chose de chouette, parce que on sait jamais ce que ça donne, et puis que ce livre qui finalement se vend pas mal, a été dans plein de sélections de prix, enfin a été quand même assez remarqué, donc une jolie réussite, et puis tous les autres que j'aime.
Et là vous travaillez sur quoi?
Oh là là, là je travaille je viens de finir un livre qui sortira au seuil au mois de mars pour des tout petits, et là je travaille sur un projet de livre objet avec les éditions Thierry Magnier. Et je ne sais vraiment pas si je vais y arriver.
Vous n'avez pas le titre, vous n'avez pas encore...
Non, j'ai pas le titre, j'ai le principe, ça fait très longtemps que je travaille dessus, mais voilà, ça me pose plein de questions. Et voilà. Je l'ai abandonné déjà, je l'ai repris.
Ah oui, d'accord.
Et je sais pas si je vais arriver au bout ou pas. Je vous dirai ça dans quelques mois.
Merci Corinne Dreyfus. Et bonne continuation.
Merci beaucoup à vous.